Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On est en direct de Roanne, il est 14h23 exactement. Vous êtes sur Immo et Territoria et nous sommes à Roanne avec un environnement magnifique, une ville à taille moyenne où il fait bien vivre. Alors en plus, je vais vous dire, je ne suis pas très loin de chez moi, puisqu'on est à peine 100 km de Lyon, voilà, ma bonne vieille vie de Lyon. Alors, on va commencer cette série d'interviews pour parler du congrès de l'Association des villes de France. Attention, ne pas confondre avec l'Association des maires de France. On parle de villes moyennes, mais de villes est bien sûr attractives et évidemment soumises aux mêmes règles et aux mêmes injonctions que les grandes agglomérations. Beaucoup, beaucoup de choses à dire autour des maires et des élus locaux que nous aimons particulièrement. Donc, on est très heureux d'être ici avec l'Association Ville de France, dont nous sommes le partenaire, et on va démarrer justement, une fois n'est pas coutume, avec un cabinet qui fait des affaires publiques et fait du lobbying politique. On va voir comment ils accompagnent les élus de la nation dans leur pérégrination. Il se trouve effectivement que l'un des fondateurs de ce cabinet, je l'ai connu il y a très longtemps, il y a quelques années, et il est avec nous sur le plateau, Lorenzo de La Rochefoucauld. Bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir invités.
Merci. Vous êtes accompagné de Sophia de La Rochefoucauld.
Bonjour. Merci de nous avoir conviés.
Merci, vous êtes cofondateurs tous les deux d'une société qui s'appelle REA et vous êtes conseil en affaires publiques. Alors, conseil en affaires publiques, Sophia, si on devait résumer, ça consiste en quoi? C'est du lobbying?
On peut clairement dire que c'est du lobbying. Il y a différents types d'interactions qu'on peut avoir entre les élus locaux et les décideurs d'ordre, qu'ils soient notamment publics, privés. Notre but, c'est de bâtir des ponts entre le privé, ça peut être des entreprises, des fédérations qui représentent des intérêts particuliers avec la puissance publique, qu'ils soient des élus locaux, territoriaux, au niveau du gouvernement, mais aussi du Parlement.
Est-ce qu'on peut, lorsqu'on est en affaires publiques, avoir des clients entreprises privées, de capitaux privés, qui cherchent à pénétrer les sphères politiques également ?
Effectivement, le lobbying, c'est une excellente question puisqu'il y a derrière peut-être une charge négative derrière le mot lobbying. Mais aujourd'hui, la politique publique doit se bâtir avec toutes les parties prenantes. Et le but, c'est justement de faire consensus avec toute la société civile, toutes les entreprises. Et c'est vrai que parfois, les bonnes idées viennent également des entreprises qui ont parfois une meilleure visibilité sur le temps long.
Mais elles ont quand même l'idée, ce qui est normal en tant qu'entreprise, de faire du business. Mais dans le bon sens du terme, bien évidemment, avec une alliance objective avec les élus locaux. Ça, justement, les élus locaux, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus favorables à des partenariats public-privés, parce qu'ils ont bien conscience que la puissance publique ne peut pas tout et qu'il faudra l'alliance des marchés privés. Vous confirmez cette tendance ?
Oui, bien sûr. L'ensemble des partenariats, ce qu'on appelle PPP, partenariat public-privé, aujourd'hui d'une envergure qui ne cesse de croître. Et c'est vrai que face à l'érosion des finances publiques, il faut notamment trouver des partenariats financiers ailleurs. Et je pense qu'à titre personnel, et puis Lorenzo pourra abonder éventuellement, c'est vraiment dans l'objectif de se diversifier et aussi quelque part de rassembler. Et ça, je pense que de plus en plus de projets, notamment sur les projets énergétiques, mais aussi liés à l'écologie, de plus en plus de projets, effectivement, voient le jour.
Lorenzo de La Rochefoucauld, on se connaît depuis quelques années. Quand je vous ai rencontré, vous étiez directeur de cabinet de Gérard Beckerman à l'affaire. Et vous êtes très impliqué, très très impliqué. Vous avez mené plusieurs campagnes politiques. Comment on bascule finalement de candidat à des élections à devenir patron ou cofondateur d'un cabinet d'affaires publiques?
En fait, c'est simple. J'avais toujours eu envie de... De créer
mon... Parlez bien dans le micro.
Ouais, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise, d'avoir cette expérience d'entrepreneuriat aux côtés de l'expérience du salariat dans lequel vous m'aviez rencontré à l'époque. Et effectivement, en se présentant des élections, quand on est sensible à la chose publique, on peut se rendre compte que c'est assez difficile de faire avancer les choses concrètement, d'avoir réellement de l'impact. Et donc de basculer de l'autre côté en accompagnant les élus mais aussi les entreprises qui sont vraiment le cœur battant de notre pays qui sont au cœur de l'économie réelle, c'est une bonne façon finalement de continuer à s'occuper de la chose publique différemment, sans être élu, en ayant plus de liberté, plus de latitude et en pouvant mesurer davantage son impact.
Alors justement, Sophia, vous accompagnez des élus, ça peut être des maires de ville, des députés, tout type d'élus. Quel est le fond de l'activité de votre action?
Alors principalement, nous accompagnons plutôt des entreprises, comme je l'ai dit, on va dire des clients plutôt privés, même si parfois nous accompagnons également des associations. Nous pouvons, de manière, on va dire, suggérée, nous pouvons accompagner des élus, puisqu'en l'occurrence, nous pouvons faire émerger quelque part, pour ainsi dire, des champions. Et aujourd'hui, vous savez, avec l'instabilité qui règne par rapport à la représentation nationale liée au Parlement, le pouvoir exécutif a besoin d'éléments fiables. Et ces éléments fiables sont sur le terrain. Et c'est vrai que les élus sont vraiment ambassadeurs, nous, à la fois pour déterminer les réalités, c'est-à-dire leur remonter des informations, mais aussi sont vraiment des acteurs politiques sur lesquels les entreprises, et quand je dis les entreprises, c'est tout type acteurs finalement privés, peuvent s'appuyer. Et donc c'est vrai que quelque part, les élus locaux ont pris la place des élus nationaux.
Alors justement, les enjeux sont majeurs. On ne va pas effectivement tout redire. On va y aller avec le son. J'ai quelques éléments de son. On est à l'aube d'une élection majeure pour le pays. Alors je vous la fais courte. Baisse des dotations graduelles, mais certaines des collectivités locales. Pour certaines, on est sur des chiffres qui vont au-delà de 40%. Les compensations qui ont été faites par les leviers fiscaux, bravo, les leviers fiscaux sur notamment la baisse de la RLS, c'est-à-dire la baisse des APL, voire la suppression d'une partie des APL, a concouru à la suppression de la taxe d'habitation pour les collectivités locales. Mine de rien, ça a gelé et la construction pour les bailleurs sociaux de nouveaux logements. Ça a ponctionné une partie avec la réduction du loyer de solidarité, une partie des ressources, et les élus se trouvent finalement face à des injonctions où on est limite avec des élus qui disent finalement on va prôner la décroissance démographique, la décroissance structurelle et industrielle, etc., puisque nous n'avons plus les moyens de construire les aménités nécessaires lorsqu'on accueille des nouveaux habitants, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas un maire qui ne veut pas accueillir de nouveaux habitants. On est sur des démographies parfois inégales. Qu'est-ce que vous dites lorsque on vous pose cette équation que vous maîtrisez particulièrement, d'un pouvoir qui se jacobinise de plus en plus, qui centralise au détriment des élus locaux? Est-ce que vous avez cette impression, ou est-ce que finalement c'est une espèce de bashing au niveau d'un pouvoir central qui ne cesse de croître? On commence par vous, Sophia, peut-être?
Oui, bien sûr. Effectivement, la situation est assez complexe, puisqu'on demande de plus en plus aux élus locaux, aux maires, d'endosser plus de responsabilités avec moins de recettes. Et surtout, il y a aussi une forme de défiance. Le processus de décentralisation qui a été tant promis, et par ailleurs, où même le Premier ministre s'est engagé, on voit que finalement, c'est une décentralisation avec un État fort, quelque part, puisque le pouvoir n'irait pas au maire, mais irait au préfet. Et ça, je pense que dans une situation où on a besoin de rétablir de la confiance entre les Français, entre les citoyens, mais aussi envers les élus, les maires, il devrait finalement, je pense, avoir une meilleure compréhension de ce qu'on peut déléguer. Et ensuite, sur la question de la fameuse équation, qui est, comme vous le savez, toujours l'épineuse question en novembre, lors des discussions des textes budgétaires, c'était assez problématique, puisque effectivement, aujourd'hui, les recettes fiscales, en tout cas destinées aux élus, sont moindres, donc il va falloir se diversifier. Et les élus, je pense que quand vous parlez de décroissance, malheureusement, qui était une idéologie politique, devient une réalité. Et nous, en tout cas, en tant que lobbyistes, en tout cas, on essaie vraiment de trouver des solutions pour quelque part rendre les collectivités, on va dire, économiquement soutenables, avec des projets qui leur amènent, outre que l'on foncier, des recettes, tout
bien
simplement.
Sûr, bien sûr. Lorenzo, votre avis?
Je dirais qu'aujourd'hui, les maires sont vraiment des maires entrepreneurs, en fait. Ils ont beaucoup de latitude pour gérer leur ville. C'est quand même la figure politique aujourd'hui, le maire en France, qui a le plus de pouvoir, de marge de manœuvre, plus qu'un président de la République, proportionnellement à son territoire. Et donc le maire est condamné à trouver des solutions, puisqu'on a des dettes et des déficits abyssaux. Et il les trouve comment? Auprès des entreprises. Et donc notre rôle là-dedans, c'est de faire le lien entre ces entreprises privées et les communes. On est ici au Congrès de Ville-de-France, donc c'est quand même toutes les villes entre 10 000 et 100 000 habitants, donc ça fait un paquet de villes dans notre pays. Et en fait, c'est ça l'équation qu'il nous faut résoudre. Donc est-ce on est là pour aider les élus à résoudre cette équation.
On parle de partenariat public-privé, bien évidemment, mais on peut parler éventuellement aussi de déontologie, d'éthique. On va de plus en plus aujourd'hui sur de l'économie sociale et solidaire. On va de plus en plus sur des structures de capitaux à mission, avec des ratios extra-financiers de type ESG ou taxonomique, qui sont repris largement. c'est très intéressant, c'est une transformation du capitalisme ambiant, mais le fond reste toujours le même, faire du profit, bien évidemment, puisque c'est normal, c'est endémique et à la nature même de l'entreprise. Question, est-ce que quand on est lobbyiste, avec le côté plutôt positif que négatif, parce qu'effectivement il y a une charge un peu négative quand on parle de lobbying, mais c'est parce qu'on pense beaucoup aux États-Unis quand on dit ça, est-ce que vous choisissez vos clients? Est-ce qu'il y a chez REA une charte? Est-ce qu'on fait de l'énergie propre, par exemple? Je ne vais pas jusqu'à dire on mange des céréales et on fait du vélo, mais quelle est l'idée de... Quelle est l'idée? Comment on fait? Parce que vous savez, souvent, il y a cette idée. Bon, je vais vous donner deux cas de figure pour illustrer le propos. C'est un peu polémique, mais j'aime bien quand même. C'est par exemple une entreprise comme Monsanto. Oui. Beaucoup de débats autour de certains cabinets qui avaient fait beaucoup parler d'eux au niveau du Parlement européen et des structures qui n'avaient pas amorcé le changement dans leur nature même énergétique et qui produisaient par exemple du charbon et des métaux fossiles. Donc je caricature un peu, mais c'est ça. Comment on se positionne ?
En fait, on a une chance aujourd'hui exceptionnelle avec Sophia, c'est qu'on a le luxe de pouvoir choisir les clients qu'on accompagne. Et parmi ces clients, les dossiers qu'on va traiter.
Peut arriver qu'un dossier arrive chez vous en disant, voilà, je fais tel ou tel type de business, pourquoi pas, hein, ce n'est pas une critique. Et vous pouvez lui dire, non, je suis désolé, ça n'entre pas dans notre charte et dans notre éthique.
C'est déjà arrivé. Absolument.
Bien, c'est courageux.
Il y a également une manière de faire du lobbying, me semble-t-il. La déontologie, c'est choisir les clients, puisque finalement, nous agissons comme des avocats. Nous embrassons corps et âme la cause qu'ils défendent. On a une maxime qui est de dire transformer l'intérêt particulier en intérêt général. Mais l'idée, c'est aussi de faire... Comment est-ce qu'on fait du lobbying? Comment est-ce que chacun est responsable? Parce qu'il y a aussi du lobbying à la papa. Vous aimez bien la polémique, moi aussi. Et c'est vrai qu'on se doit aussi d'être transparent vis-à-vis de tous les interlocuteurs, qu'ils soient en privé, encore une fois, ou public. On se doit de ne pas mentir, de ne pas grossir les traits et de simplement jouer sur l'aspect de la conviction et des arguments. Et ensuite, on fait le reste. Mais il ne s'agit pas du tout d'avoir une baguette magique. Évidemment, il y a quand même aussi parfois des coups qu'on peut jouer. Mais on avertit toujours, et je vous dis, ça nous est arrivé vraiment parfois de reculer parce qu'on se dit, là, on n'est pas en confiance, on n'y va pas.
Alors, justement, dans quelques instants, nous allons écouter un grand monsieur de la politique et qui a été... le patron du Rennes, Jean-Michel Fauvergue, qui a écrit un livre qui, justement, est très positif, puisque ni capitulation, ni résignation. Déjà, alors, rien que le titre, c'est un vrai programme politique. On va l'avoir, les amis, dans quelques instants. Je ne peux pas ne pas résister à cette question, bien évidemment. On est à l'aube d'une élection majeure, et cette élection, elle est très singulière depuis la naissance, depuis 1958, dans la naissance de la Ve République. Je pense que vous l'avez compris. Nous sommes à un point de bascule, peut-être, de régime, peut-être d'un bouleversement démocratique sans précédent avec un Parlement qui va s'affronter dans quelques mois seulement, et un constat après 10 années de macronisme qui est un constat plutôt délétère. Je vais essayer d'être le plus poli possible, mais rien ne nous sera épargné. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'aube de ce bouleversement que tout le monde pressent, d'une France aujourd'hui qui se cherche, d'une France qui se divide, d'une France qui s'oppose, d'une France qui se fragilise et surtout d'une France qui ne s'aime plus. L'amour de la nation a été confisqué par des mouvements réactionnaires, comme si nous n'avions plus la possibilité, nous citoyens, de ne plus aimer notre pays, nos couleurs. La question de votre point de vue, alors je ne veux pas vous emmener à faire de la politique, c'est comment vous interprétez les mouvements politiques, et je suis sûr que dans votre métier vous devez sentir les choses à l'aube de cette élection. Quelle est votre analyse sur la question? On va commencer par vous, Pierre.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez de désamour, la France a toujours eu une histoire proche de la violence, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, effectivement, on le sent. Il y a quelque chose, en fait, qui s'est fissuré, qui s'est abîmé. On parlait de confiance tout à l'heure. On le sent que les institutions ne jouent plus leur rôle en tant que, finalement, fédérateurs. En tant que fédérateurs de la nation, et aussi de restaurer, en fait, de calmer les pulsions qui peuvent être aussi violentes. Et la violence n'est pas que de la force physique, c'est aussi dans les idées qu'on exprime. Et c'est toujours radical, et ça, on le sent. On le voit, aujourd'hui, il y a effectivement ce qu'on appelle le cordon sanitaire, ne tient plus. Parce qu'on le voit aussi, là on revient sur le niveau local, quand il s'agit de stigmatiser une partie de la politique, à savoir le Rassemblement National, on l'a vu également qu'au niveau, au niveau national et au niveau local, on parle de deux réalités différentes. Donc aujourd'hui, il y a aussi la France au niveau national, à savoir les élections présidentielles, ne reflètera pas forcément aussi ce qu'il se passera au niveau des territoires. Et donc je pense qu'à titre personnel, il va y avoir une bascule, mais la bascule, en fait, elle va toujours être peut-être un président d'une partie politique, mais un parlement d'une autre couleur politique et les territoires d'une autre couleur politique. Parce que ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est vraiment la couleur de tous ces échelons.
Bien dit, intéressant. Vous devriez faire de la politique. Lorenzo.
Écoutez, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus ? Simplement dire que finalement, je ne suis pas sûr que la France ne s'aime plus. Je pense qu'en fait, certains dirigeants, relayés par certains médias, nous font croire qu'on ne s'aime plus. C'est une vraie nuance. Et en fait, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de candidats, en tout cas de candidats à la candidature, je crois près de 40. À l'arrivée, ou plutôt sur la ligne de départ, ils seront peut-être qu'une dizaine seulement. Et je pense que les Français ont d'autres choses aujourd'hui en tête que de savoir qui est candidat, de savoir qui fait quoi de sa vie privée. Je pense qu'ils ont déjà suffisamment de mal à finir leur fin de mois. Et que, en fait, ça me paraît tellement déconnecté de la réalité des gens que le débat est peut-être encore trop loin. Je pense qu'il faudra se reposer la question peut-être dans 6 mois. Et quand on aura aussi davantage de clarifications sur les candidatures. Parce qu'il y a beaucoup de candidats au sein de plusieurs partis.
Bien sûr.
Et donc ça brouille les cartes. Et je pense que les Français ont d'autres choses à penser aujourd'hui que ça.
Voilà. Merci beaucoup. On peut vous trouver facilement sur Internet, je suppose.
Oui.
Donc Rhea, ça s'écrit R-H-E-A-E-A, qu'on trouve sur Internet, bien évidemment. On va mettre d'ailleurs l'adresse du site Internet sur le podcast de sous l'émission pour qu'on puisse voir concrètement ce que vous faites. On était ravis de vous recevoir et de vous revoir, mon cher Lorenzo
merci,
de La Rochefoucauld et Sophia de La Rochefoucauld, cofondateur du cabinet conseil en affaires publiques qui s'appelle Rhea. Tout de suite, on va recevoir Jean-Michel Fauvergue dans quelques instants. Vous restez connectés, bien évidemment.